Un matin, vous voyez que ça fait la différence, hein? Merci beaucoup. Bonjour tout le monde. Vous êtes en forme? En forme beaucoup, moyen, passionnément. Ça fait plaisir ce matin de pouvoir être avec vous pour partager la parole de Dieu. C'est toujours un privilège de pouvoir encore partager. Si ma voix est rogue un petit peu, c'est parce qu'hier soir, j'étais à grand-mère, il y avait le 30e anniversaire, ils inauguraient leur bâtiment il y a 30 ans. Puis il y avait beaucoup de monde, puis la température était un peu plus chaude qu'ici. Puis moins ventilée, fait que ça a affecté mes cordes vocales un petit peu. Je suis sorti au milieu, à l'entraque. Je suis pas capable d'aller plus loin que ça. Demain matin, je ne parlerai plus. C'était bon, une bonne soirée. Vous savez qu'en général, c'est pour chacun de nous autres, hein, la vie nous forme, l'école nous informe, le péché nous déforme, mais Christ nous transforme. On va voir ce matin un homme qui a été transformé par la parole de Dieu. Une des choses, une des choses importantes que Paul a apprises dans sa vie a été de louer Dieu même à travers les épreuves, à travers les difficultés. Pour ceux et celles qui étaient ici le 23 juin dernier, je vous ai partagé un message sur 2 Corinthiens, chapitre 1er. Il y avait comme thème les bienfaits de la souffrance. Et on avait un verset clé qui était « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de toute générosité et le Dieu de tout encouragement, lui qui nous encourage dans toutes nos détresses, afin que par l'encouragement que nous recevons nous-mêmes de Dieu, nous puissions encourager ceux qui sont dans toutes les épreuves. » Vous savez, nous avons tous, en tant que nous vivrons, nous aurons tous à passer des situations, toutes sortes de situations, toutes sortes de problèmes, toutes sortes de difficultés, des maladies, des infirmités, toutes sortes de pertes. Nous allons rencontrer des gens difficiles, on va rencontrer des gens compliqués. On va faire face à des chagrins, on va faire face à des déceptions, à des désespoirs. C'est inévitable dans la vie. C'est inévitable dans la vie. Vous allez voir, vous allez en faire face à ça un jour ou l'autre, si vous n'y avez pas déjà fait face. Des luttes personnelles, des luttes familiales, des conflits dans l'Église. C'est ça la vie. C'est ça la vie des humains. J'ai fait un résumé d'un livre qui s'appelle « Nos relations, des bénédictions compliquées ». Est-ce que ça se peut, ça? Mais dans ce livre-là, on voit la source et on voit la solution. Voyez-vous, à chaque fois que vous vous heurtez à un mur de la vie, à chaque situation difficile, il faut apprendre une vérité importante. Dieu est toujours au contrôle. On est en train d'apprendre cette leçon-là. Dieu est au contrôle. Tout ce qui nous arrive, Dieu est au contrôle. Mais on a de la difficulté à retenir que c'est vrai. On oublie ça. Quand il arrive une difficulté, on oublie que Dieu est au contrôle. On commence à le mettre en punition. Dieu est toujours prêt à nous consoler, mais pas avant que nous ayons compris et accepté sa souveraineté. Écoutez bien. Dieu est toujours prêt à nous consoler, mais pas avant que nous ayons compris et accepté sa souveraineté. Si ça va mal, merci Seigneur, c'est toi qui as permis que ça va mal, puis il y a une raison pour laquelle je ne la connais pas, je te fais confiance. Je chemine encore. On est tous là. Dieu est toujours prêt à nous consoler, mais pas avant que nous ayons compris et accepté sa souveraineté. Dieu n'explique pas tout. Mais vous pouvez lui poser des questions, puis il va vous répondre. Si vous voulez tourner dans 2 Corinthiens, au chapitre 12, l'apôtre Paul a posé une question, et le Seigneur lui a répondu. 2 Corinthiens, chapitre 12. Vu que la lettre de 2 Corinthiens a été écrite comme étant la plus intime de Paul et la plus personnelle. Dans cette lettre, il révèle sa douleur intérieure, ses frustrations, ses tentations, ses faiblesses. Enfin, il révèle le pouvoir de Dieu qui œuvre en plein milieu de toutes ces difficultés. Et on peut voir à travers toute cette situation-là, comment il a vécu ça. On voit que Paul, il raconte comment il a été battu, comment il a été critiqué, faussement accusé, calomnié méchamment. Il a raconté comment les gens ont fait circuler des fausses rumeurs, des fausses accusations à son propos. Certains mettaient son ministère en doute, son intégrité, son honnêteté, sa spiritualité, sa moralité, ses capacités, ses décisions. Tout était mis en doute pour lui. Mais la plus grande douleur qu'il a ressentie, c'est le souci que lui a donné toutes les églises. Paul avait fondé au-delà de 1000 églises. Et quand il a terminé sa vie, il y avait 2-3 personnes autour de lui. Il dit même, personne ne m'a assisté. C'est le Seigneur qui m'a assisté. Ça fait mal, ça. Ça fait mal d'avoir fait tant de bien, puis fini comme ça. On peut regarder la liste des difficultés de Paul, puis c'est une liste bien partielle. Au chapitre 11, lui, il savait ce que c'était la souffrance. Il savait ce que c'était faire naufrage. Il savait ce que c'était être battu, être fouetté, être lapidé. Chapitre 11, verset 24. 5 fois, j'ai reçu des Juifs, 40 coups moins un. 3 fois, j'ai été battu de verge. 1 fois, j'ai été lapidé. 3 fois, j'ai fait naufrage. J'ai passé un jour et une nuit dans l'abîme, etc. Il n'arrête pas. Toutes sortes de difficultés qu'il a passées. Il savait ce que c'était avoir froid, avoir faim. Verset 26, 27. J'ai été dans le travail, dans la peine, exposé à de nombreuses veilles, à la faim, à la soif, à des jeûnes multipliés, au froid, à la chaleur, à la nudité. Sans parler d'autre chose, je suis assiégé chaque jour par les soucis que me donnent toutes les églises. Et vous croyez, vous autres, avoir des problèmes? Ah, j'aime pas ça aller à l'école. Ah, mon mari me comprend pas. Ma femme ne m'appuie pas. Mon patron, il est difficile. Je gagne pas assez d'argent. Attendez d'avoir des vrais problèmes. Chaque fois que vous croyez que vous avez des problèmes, je vous conseille d'aller ce passage-là. Vous allez vous rendre compte que lui, il a vécu des vrais problèmes. Mais avez-vous remarqué que Paul n'appelle aucune de ces choses une écharpe dans la chair? Qui préoccupait Paul, c'était la présence de faux docteurs qui se déclaraient être des apôtres et qui s'étaient introduits dans l'Église. Ils se valorisaient et cherchaient à discréditer la personne et le message de Paul. On va reculer au chapitre 11 et le verset 13. Ces hommes-là sont des faux apôtres, des ouvriers trompeurs, déguisé en apôtre de Christ. Et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de la lumière. C'est ces personnes-là qui étaient là, puis qui voulaient lui donner de la misère, et qui lui donnaient de la misère régulièrement, constamment, sans arrêt. Où va-t-il aller avec ses problèmes? Où va-t-il aller? Il se dépendait pour les gens. Il se défendait pour les gens lui faisaient du mal. Les gens vous rejettent, les gens vous blessent. Vous comprennent mal. Ils vous trahissent, se tournent contre vous. Les gens ont facilité à vous faire du mal. Et ont même, ça va même jusqu'à moi à amener à des relations qui s'écroulent parfois. Je vous en parle, ça me fait frissonner de voir des fois qu'on arrive dans des situations, puis après avoir tellement investi de temps avec des personnes, tout à coup, ils revirent de bord complètement. T'es plus bon. Puis là, tu te demandes qu'est-ce qu'ils vont te faire de mal. Ils peuvent te détruire. De Corinthiens, chapitre 12, verset 7. C'est le cœur du message qu'on voit ici de l'apôtre Paul. Il dit, dans toutes ses souffrances, le Seigneur a répondu à beaucoup, mais il y en a une ici. Il a posé la question, puis le Seigneur y a répondu, mais pas comme il voulait. Verset 7. Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil, à cause de l'excellence de ses révélations, il m'a été mis une écharpe dans la chair, un ange de Satan pour me souffleter, et m'empêcher de m'enorgueillir. 3 fois, j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi. Et il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calomnies, dans les persécutions, dans les détresses pour Christ. Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Prions. Oh Seigneur, on veut ce matin que ces paroles que l'apôtre Paul a prononcées, paroles très difficiles à accepter, Seigneur, peux-tu nous montrer chacun de nous les choses qu'on doit accepter dans nos vies, afin de vivre cette liberté comme Paul l'a eu. Une grâce qu'on te demande au nom du Seigneur Jésus. Amen. En étudiant ce passage, je vais répondre probablement à quelques-unes de vos questions. Ai-je une écharpe maintenant? Que dois-je faire pour avoir une écharpe? Que puis-je faire pour éviter d'avoir une écharpe? Et que faire si j'ai une écharpe? Pour Paul, c'est évident que cette écharpe était quelque chose d'important. L'écharpe de Paul était quelque chose de très pénible. Le Saint-Esprit, délibérément, ne nous conduit pas, n'a pas conduit Paul à nous dire c'était quoi. Quelquefois, l'écharpe lui faisait tellement mal, mais personne ne pouvait le voir. Pour chacun de nous qui souffre, on peut s'identifier à Paul. S'identifier à ce qu'il a vécu. Ce qui est important, c'est ce qu'il a fait avec. Quand il nous arrive des difficultés, ce qui est important, c'est qu'est-ce qu'on fait avec. C'était quoi cette écharpe-là? Littéralement, ça veut dire « un pieu pour ma chair ». Le mot « chair » désigne parfois la partie physique et parfois la partie non régénérée de nous. Et là, ce verset réfère à un homme intérieur. La plupart des commentateurs depuis Tertullien voient dans cette écharpe une maladie physique. Et ceux qui ont des scophiles, c'est marqué en bas, c'est à ses yeux, puis en tout cas. Ça, c'est la plus populaire qui a été présentée. Mais une longue liste de près de 150 maladies possibles a été proposée, parmi lesquelles névralgie, épilepsie, rhumatisme, morbidité, puis etc. Barrette a suggéré des difficultés de parole. Lui cite des versets. Hoggs y fait remarquer que Paul ne dit pas une écharpe dans la chair, mais une écharpe pour la chair. Le mot grec, c'est « tesarki ».« Te » veut dire « pour » et non « par ». Chrysostome, lui, il voyait dans cette écharpe des opposants de Paul. Il voyait des personnes, ce qu'on a lu tantôt, qui donnait la vie difficile à Paul. Et c'est pour ça que Paul dit, enlève-les. Enlève-le de moi. Bosch souligne que dans l'Ancien Testament, c'est intéressant, des adversaires sont appelés des épines dans nos côtés, Nombre 33, plusieurs versets, ou des écharpes dans nos yeux, Josué 23, 13. Le mot écharpe n'est jamais employé pour une maladie dans l'Ancien Testament. Je vais peut-être bousculer un peu votre théorie ce matin, mais depuis 2000 ans, il y a eu plus de 50 interprétations sur le sujet. Rien dans le texte n'indique que l'écharpe était physique. Ce qui se passait, c'est que Paul était en train d'être attaqué. Certains mettaient son ministère en doute. Et où va-t-il aller avec ses problèmes? Est-ce qu'il va aller se tirer en bas du pont, se tirer devant le métro? Il n'y en a pas de métro en ce temps-là. Non, il s'est tiré devant le Seigneur. Il a su où aller. Il est allé au Seigneur. Une question à se poser est, comment Paul a-t-il bien pu mener une vie positive en étant entouré de gens si négatifs? En étant câblé par des circonstances négatives, pourtant, il a été capable de vivre au-dessus de tout ça. On va regarder quatre principes. Et le premier principe, c'est que Dieu humilie ses enfants par le moyen de la souffrance. Si Dieu vous humilie au moyen de la souffrance, c'est parce que vous êtes orgueilleux. Vous ne voulez pas le dire? C'est parce que vous êtes orgueilleux que Dieu a besoin de vous humilier. Et Dieu humilie ses enfants par le moyen de la souffrance. Est-ce que Paul avait besoin d'être humilié? Bien oui. Pourquoi? Pourquoi il avait besoin d'être humilié? À cause de l'excellence de ses révélations que vous voyez au chapitre 12 et versets 1 à 4. Au verset 2, il dit, « J'ai été ravi jusqu'au troisième ciel. » C'est quelqu'un ici qui est remonté là? Au verset 4, il dit, « Je suis élevé dans le paradis. » Ah, lui, il l'a vu, le paradis. Il a entendu des choses merveilleuses. Hey, il pourrait nous dire, « Hey, es-tu quelqu'un de vous autres là, qui est remonté au paradis? » Qui a eu une vision, le Seigneur il a parlé, puis il a montré toutes ces choses à personne. Ah, non! Moi, c'est 4 fois. Ça m'est arrivé 4 fois. Pas vous autres, hey! Le Seigneur, il dit un peu. Au verset 7, « Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil à cause de ces révélations. » Il avait besoin d'être humilié. Il dit au verset 7, il dit, « Il m'a été mis. » Qui l'a mis? Il m'a été mis. C'est Dieu qui l'a permis. Paul n'avait pas demandé de l'avoir. Paul reconnaissait que Dieu a le contrôle de sa vie. Satan aurait préféré que Paul reste orgueilleux. Alors Dieu lui a donné une écharpe pour la chair. Dans l'original, c'est un bâton pointu qu'on servait pour empaler les gens. Une écharpe pour ta chair, c'est-à-dire ta chair veut s'enorgueillir, moi je vais l'empaler. Une version populaire qui dit « Ce que le Seigneur m'a fait connaître est extraordinaire. Alors, pour éviter que je me vante de cela, j'ai reçu dans mon corps comme une blessure. Un envoyé de Satan est chargé de me frapper pour empêcher de me vanter. » Un envoyé de Satan. Un ange de Satan. Un messager. Et le mot grec, c'est « angelos ». Et « angelos », ça veut dire « un messager ». Ça revient 188 fois dans le Nouveau Testament, et Angela se réfère toujours à une personne. Et j'ai trouvé ça intéressant, il y a un commentateur qui a dit, « Ceux qui disent que ça réfère à une maladie se donnent le privilège de dire que 187 fois Angela veut dire une maladie, et 100, et une fois. Une fois, ça veut dire une maladie, puis le restant, ça va toujours dire une personne. » C'est peut-être une personne terrestre, une personne céleste, mais ça veut toujours dire une personne. Paul pourrait dire, « Dieu m'a humilié, il a fait passer un bâton à travers de moi, à travers de ma chair, par l'entremise d'une personne. Les gens peuvent vous faire du mal plus que n'importe qui d'autre. Ils peuvent détruire votre ministère, créer des problèmes. C'est peut-être les dirigeants de la conspiration corinthienne qui étaient contre Paul. » C'est des ennemis, en tout cas, c'était un ennemi efficace dont Satan se servait pour attaquer Paul. Là, on voulait le détruire au complet, détruire son ministère, détruire sa réputation. Est-ce que ça déjà arrivé? Il y a des fois que ça passe proche. Un des buts de l'épreuve est de nous rendre humbles. Et c'est contraire à notre chair, bien sûr. On ne veut pas être humble, on veut être orgueilleux. On ne sait pas qu'on est orgueilleux. On travaille comme ça. On a acquis un peu d'humilité avec les années. Mais Paul y en avait acquis depuis 30 ans. Puis le Seigneur, il va encore l'humilier. Quand vous passez par des difficultés, si ça vous humilie, c'est peut-être le Seigneur qui le permet pour vous rendre humble, pour vous garder humble. Dieu veut garder ses enfants humbles pour qu'ils soient le reflet de sa personne. Le problème n'est pas la douleur, mais comment je m'y prends avec la douleur. Comment Paul s'est-il pris avec la douleur? Regardez votre texte, marqué, il a prié. Hein? Il a prié. Il est allé au Seigneur. Il savait que c'était la solution. Vous savez, la plupart des gens commettent une erreur quand nous sommes dans des problèmes, dans des épreuves, quand nous traversons des moments difficiles, on crie au Seigneur, « Seigneur, délivre-moi de ça. Seigneur, je ne veux pas avoir ça. » Puis on crie au Seigneur. C'est pas mauvais de crier au Seigneur et demander qu'il nous délivre de ça. Mais le problème, c'est que la plupart des gens, ils voudraient que le Seigneur dise, « Ah oui, monsieur, oui, madame, tu veux savoir ça tout de suite ou rétroactif? » Votre écart est peut-être une frustration. Est-ce une angoisse mentale de quelque sorte? Un échec professionnel peut-être? Est-ce une souffrance physique? Est-ce que des gens ont dit du mal contre vous, vous ont jugé, vous ont trahi, vous ont blessé? Que vous puissiez donner à Dieu l'opportunité de mieux le connaître, comme vous ne l'avez jamais connu auparavant, en acceptant votre situation. Permettez que ça devienne la puissance de Dieu en vous. C'est le premier principe. Dieu veut humilier ses enfants pour qu'ils deviennent puissants. Deuxième principe qu'on peut retrouver, c'est Dieu est le seul à qui nous devons aller quand nous souffrons. Pourquoi Paul est-il allé à lui? Parce qu'il avait appris qu'aller vers les gens, ce n'était pas sécuritaire. Il avait lu, il connaissait très bien l'Ancien Testament, puis il avait probablement lu David qui a dit « Que je tombe entre les mains de Dieu et non entre les mains des hommes. » 2 Samuel 24. Paul avait appris ça aussi durant sa vie. Il dit trois fois j'ai lui demandé. Chaque fois j'ai eu la même réponse. Ma grâce te suffit. Autrement dit, je ne vais pas t'enlever tes problèmes, mais je vais te donner plus de grâce. Je vais te donner la grâce nécessaire pour vivre avec. Vous savez qu'il y a des gens qui disent que si tu pries avec foi, tu seras guéri. Est-ce que vous pensez que Paul a prié avec foi? Trois fois j'ai prié. Il savait qui prier et qui pourrait l'aider. Il n'a pas accusé les hommes dont Satan se servait pour lui faire du mal. Il est allé à Dieu. Parce qu'il dit, c'est Dieu qui contrôle ça. Si Dieu permet que les hommes me fassent du mal, il contrôle. Pourquoi? Je ne sais pas. J'ai demandé. Ça fait trois fois qu'il demande. Il me dit, ma grâce suffit. Où allons-nous avec nos problèmes? Il faut apprendre à aller au Seigneur. Premier principe, Dieu veut nous garder humbles. Deuxième principe, nous devons apprendre à aller au Seigneur avec nos problèmes. Troisième principe, ma grâce te suffit. Dieu seul peut donner la grâce suffisante qu'on voit au verset 9. Il m'a dit, ma grâce te suffit. Autrement dit, à chaque fois que je lui ai demandé, il m'a donné la même réponse. Dieu a dit, je ne t'enlèverai pas la souffrance, je ne t'enlèverai pas la douleur, mais je vais augmenter la grâce. C'est pas votre affaire, ça? Pas tout à fait ça qu'on aurait aimé comme réponse. Hein? Mais anyway, c'est ça. Je ne t'enlèverai pas la souffrance, je ne t'enlèverai pas la douleur, mais je vais t'augmenter la grâce. On veut toujours une vie sans difficulté, une vie sans douleur. Dieu dit non, augmentez les difficultés, augmentez les douleurs. C'est comme ça que je vais pouvoir être glorifié. C'est comme ça que mon enfant va devenir plus humble, puis il va apprendre à me demander, à se confier à moi. Il a soulevé Paul, son problème n'est pas parti, mais il a reçu la grâce pour le supporter. Dieu ne nous enlève pas toujours nos problèmes, mais il peut nous donner la grâce suffisante pour le supporter. Non seulement Dieu nous veut humbles, mais il utilise la souffrance pour nous rendre humbles. Avez-vous passé ce test-là? Vous avez passé à l'école? Hein? Vous avez fait votre primaire, secondaire, vous avez tous eu vos diplômes, cégep, vous avez vos diplômes. Vous savez, il y a l'école de la vie, il y a l'école de Dieu, mais il y a l'école des hommes. Nous serons toujours à l'école. Nous ne serons jamais gradués ici-bas. On est toujours en train d'apprendre. Apprendre que la grâce de Dieu, on doit s'appuyer là-dessus. Quatrième principe qu'on peut voir, c'est que Dieu nous veut puissants. Est-ce que vous voulez une vie puissante, un ministère puissant? Allez au verset 9. Il dit, « Car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » Ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. La souffrance t'humilie, t'affaiblit, et ça devient la puissance de ta vie. Pourquoi? Parce que Dieu brise ta volonté. Et ça brise ton orgueil. Ça brise ta confiance en toi. Et ça te force à dépendre entièrement de Dieu. Et quand tu es dépendant de Dieu, tu es disponible pour le servir par sa grâce. Là, tu deviens puissant. Il nous faut apprendre à ne pas regarder à nos difficultés comme des choses négatives, mais regarder-les comme des choses positives, des sources de puissance. Personne n'est trop faible pour être puissant, mais la plupart des gens sont trop forts pour être puissants. Il y a beaucoup trop d'eux-mêmes dans ce qu'ils font, et il faut que le Seigneur brise tout ça. Moi, un des versets qui m'a accroché quand j'étais à l'école biblique, ça a été mon verset favori, c'est avec ça que j'ai donné ma prédication à la fin. Jérémie 1:10. Regarde, je t'ai établi pour que tu arraches, pour que tu abattes, pour que tu ruines et pour que tu détruises. Pas mal, ça. Pour que tu bâtisses et que tu plantes. Il faut tout enlever, les vieilles racines, il faut tout détruire pour pouvoir construire. Vous avez entendu l'illustration d'un groupe de personnes qui étaient parties à un voyage en autobus, puis sont allées visiter un endroit où est-ce qu'on faisait de la sculpture. Puis quand ils sont arrivés là, ils ont regardé ça, puis ils ont vu un monsieur qui avait un gros bloc de bois, puis plusieurs petits couteaux avec un marteau, puis... Le monsieur, il commençait. Il avait enlevé deux, trois petits morceaux après son gros bloc de bois. Alors, il y a une madame qui arrive, elle dit à monsieur, elle dit, « Qu'est-ce que vous faites là? » Il dit, « Je fais une tête de lion. » « Ah oui? » Elle dit, « Comment vous allez faire un gros bloc de bois? Qu'est-ce que vous allez faire pour faire une tête de lion? » Il dit, « C'est bien simple, madame. » Il dit, « J'enlève tout ce qui ne ressemble pas à une tête de lion. » À quoi ça ressemble un vrai chrétien? Il faut enlever tout ce qui ne ressemble pas à un vrai chrétien, puis il va rester un vrai chrétien. C'est pour ça que le Seigneur travaille dans nos vies, puis il veut nous enlever. Plus qu'il va nous enlever, plus vous allez recevoir, vous allez ressembler à un vrai chrétien. Encore du chemin à faire, hein? Il y a encore bien des morceaux à partir. Là, on dit, Seigneur, non, pas tout de suite. Vous allez voir ce que l'apôtre Paul va dire, lui, tantôt. Paul dit, trois fois j'ai demandé au Seigneur de m'enlever. Finalement, j'ai dit, je l'accepte. Il termine en disant, je me glorifierai donc bien plus dans mes faiblesses, afin que la puissance de Dieu, la puissance de Christ repose sur moi. Verset 10, je me plais. J'aime ça, moi, quand ça va mal. J'aime ça quand les autres me disent des mauvaises paroles. J'aime ça me faire brasser. Moi. J'aime ça que les morceaux partent. J'apprécie ça. Je me sens à l'aise là-dedans. Vous sentez-vous à l'aise? Hein? Lorsque Paul a compris, il a compris que le Seigneur ne voulait pas qu'il se vante de ses succès, mais qu'il se vante de ses faiblesses et de ses échecs. Parce que plus que je vais reconnaître mes échecs et mes erreurs, plus que le Seigneur va pouvoir travailler, plus que je vais ressembler de plus en plus à un vrai chrétien. Un vrai chrétien, c'est celui qui ressemble à Christ. On a encore du chemin à faire. Mais on est sur la bonne route. On est sur la bonne route. Lorsqu'il a compris, il s'est dit, « Je ne vais pas m'attarder à mes cicatrices. Je ne veux pas aller dire partout ma malheur à moi. Je ne veux pas m'apitoyer sur mon sort à cause de mes cicatrices. Au contraire, je veux les voir comme Dieu les voit. Je veux les voir comme une bénédiction, non comme un malheur. Un cadeau, non un fléau. Une capacité, non un handicap. Je vais prendre la puissance de Dieu pour vaincre. » Vous savez, lorsque nous avons atteint la fin de nos ressources, c'est là que Dieu commence. Là, c'est là que Dieu commence et sa grâce n'a pas de limite. Sa grâce n'a pas de limite. Nous sommes sauvés par grâce, gardés par la grâce, recevant la puissance par la grâce, rendus capables par la grâce, délivrés par la grâce, sanctifiés par la grâce, glorifiés par la grâce, enlevés par la grâce. Tout est par grâce. Peu importe les difficultés par lesquelles vous passez, faites confiance. Faites confiance à Dieu, il vous donnera la grâce que vous avez besoin. J'ai lu dans un article, deux articles différents, puis je trouvais que ça allait bien avec une partie de conclusion. Si nous pourrions concevoir une vie idéale, nous éliminerions sûrement les épreuves. Pourtant, l'Écriture nous révèle que les tempêtes de la vie ont un but. Dans les temps durs, nous avons tendance à nous impatienter et à nous demander quand les difficultés prendront fin. Pourtant, Dieu veut que nous fixions les yeux sur lui. En le faisant, nous découvrirons qu'il accomplit un énorme travail spirituel au cours de ces tempêtes. Parfois, le Seigneur protège ses enfants de la tempête, puis d'autres fois, il calme son enfant durant la tempête. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de Nick Wojcik, le gars qui est venu au monde pas de bras, pas de jambes? Vous l'avez déjà vu? Il y a quelqu'un qui a vu? OK? Ça vous intéresse de le revoir? C'est intéressant, ça, ce gars-là, là, il a passé exactement là. A fallu qu'il accepte. Et il y a une différence entre se résigner et accepter. Une grosse différence. Et Nick a accepté sa situation. Il a compris que Dieu le voulait comme ça. Puis il a pu parler à des foules. Puis il a réalisé que s'il n'était pas comme ça, il n'aurait jamais pu parler à des foules. Puis là, il dit, merci Seigneur que je suis comme ça. Puis il est devenu une puissance. Je ne sais pas si on peut faire jouer. Il faudra enlever ça de là. Lui va l'enlever. Là. Si on supposait être capable d'enlever ça, on aurait des techniciens extraordinaires.
Nice to see you. My name is Nick Wojcik, and it's a pleasure to be with you. So I have no limbs, but I have a little chicken drumstick. And so it's like. You like that? That would be really cool if I could get this and get some techno going. Like, here we go. One, two, three, four. But honestly, along the way, you might fall down like this. Ready? Hello! So what do you do when you fall down? Get back up. Everybody knows to get back up, because if I start walking, I'm not going to get anywhere. But I tell you, there are some times in life where you fall down. And you feel like you don't have the strength to get back up. Do you think you have hope? Because I tell you, I'm down here, face down, and I have no arms, no legs. It should be impossible for me to get back up, but it's not. You see, I will try 100 times to get up, and if I fail 100 times, if I fail and I give up, do you think that I'm ever going to get up? No. But if I fail, I try again, and again, and again. But I just want you to know that it's not the end. It matters how you're going to finish. Are you going to finish strong? And you will find that strength to get back up, like this.
Quiconque, c'est comment on va finir. Ce qui compte, c'est comment on va finir. Lui a accepté sa situation et maintenant, il sert le Seigneur de cette façon-là, comme le Seigneur l'a voulu. Comme l'apôtre Paul l'a voulu, puis comme chacun de nous, Dieu veut nous utiliser d'une façon différente, chacun de nous, qui que nous soyons. Il s'agit juste de dire, oui Seigneur, je suis disponible. Enlève, qui ne ressemble pas à un chrétien, je veux être un vrai chrétien. Et par sa grâce, on continue. Prions. Notre Dieu et Père, on veut te remercier ce matin pour ta parole. Merci pour l'apôtre Paul qui a passé par toutes ces difficultés-là. À cause qu'il a passé par les difficultés, Seigneur, aujourd'hui, on a ce message-là. C'est un message qui nous fait du bien, qui nous rappelle la réalité. Et Seigneur, tu connais chacune des personnes qui sont ici ce matin. Qu'on te connaisse un peu, beaucoup. Qu'on ait eu des temps difficiles. Peu importe, Seigneur. On te demande tout le même remède, la grâce de Dieu. Une grâce qu'on te demande au nom du Seigneur Jésus. Amen. Bonne fin de journée.